France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, dans les bandes du rock. Épisode 4, Rock le Noir. Quand je pense à Bernard Lenoir, c'est toujours le même souvenir qui me revient en tête. Nous sommes à la fin des années 90, je suis avec l'un de mes cousins, légèrement plus âgé, 18 ans à l'époque ou quelque chose comme ça, et nous sommes accroupis dans sa chambre au-dessus de deux grands bacs en plastique remplis de liquide. Dans le premier bac, il a versé du révélateur et dans le second du fixateur. Dehors, il fait nuit, l'horloge marque environ 22h30, la chambre n'est éclairée que par une ampoule grossièrement peinte en rouge et sur un fil à linge accroché entre la fenêtre et la cheminée, il y a des tirages qui sèchent. À la radio, en fond sonore, indispensable à l'atmosphère, la voix sans concession du pape de la radio rock, Bernard Lenoir.
France Inter.
Je vous propose d'écouter la clameur du 105 à l'annonce de la Black Session de Placebo.
Aujourd'hui, mon cousin a fait de la photographie sa vie. Il a initié une résidence d'artiste dans un refuge en montagne. En gros, il a choisi d'avoir le quotidien qu'il désirait, le genre de vie qui va assez bien à un ancien auditeur de Bernard Lenoir.
Bonsoir à tous, ici au 105. Je vous trouve bien calme.
Car Lenoir, c'était la liberté. Refus, très rock, d'accepter le monde comme il est. Un entêtement à faire passer l'art avant tout et à tout décider en fonction de cela. Pour lui, seul comptait la qualité de la musique. Rien d'autre ne valait vraiment la peine d'être vécu. La musique d'un côté, la photo de l'autre, un animateur et un auditeur qui se retrouvent sans se connaître chaque soir par radio interposée dans une même communauté d'esprit, c'était cela, la communauté justement des Inrecuptibles.
Voilà les Rentals, le groupe du bassiste de Weezer, un CD jusque-là disponible en import, mais qui sera bientôt édité en pressage français, c'est-à-dire un prix nettement moins prohibitif. Maintenant, dernier concert de cette série, Route du Rock, Transmusical de Rennes et autres festivals FNAC Inrecuptibles, en route pour le grand frisson sur la scène de la Cigale, Prola Fraser, Bill Cuevas, Joey Burns, Alex Oropeza, c'est-à-dire Ternation.
Et oui, Lenoir, c'était ça, du pas spectaculaire, une absence totale de mise en scène de soi, du factuel presque froid. On ne se sentait pas totalement accueilli par Lenoir. En tant qu'auditeur, il fallait presque mériter son expertise, être à la hauteur de ses recommandations. Dans chacune de ses courtes interventions, on entendait une grosse personnalité derrière le micro, et peut-être encore davantage d'ailleurs dans les interventions où il ne disait rien ou presque, quand il se contentait d'égrener des dates de concert avec sa voix grave et ses phrases qui allaient droit au but. Lenoir n'était pas un battleur, il était le contraire du publicitaire. Il était l'intransigeant du rock, celui qui disait non, l'écorché qui faisait avec le monde, sans vouloir ou sans pouvoir en faire totalement partie.
Moi, ceux qui iront les écouter, les voir à la maroquinerie.
Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas invité Lenoir à venir commenter lui-même ses archives de Radio Rock. Eh bien, figurez-vous qu'il a quitté Paris depuis longtemps et vit aujourd'hui près de la mer, dans le sud-ouest de la France, et il est de notoriété publique qu'il n'accepte jamais les interviews. Sauf que parfois il les accepte, parce qu'il n'y a pas de règles non plus. Tout se fait au feeling, il suffit que votre tête lui revienne, ou que vous ayez été recommandé par un de ses vieux potes, un autre de ses inrecuptibles à qui on ne refuse rien. Mais les interviews, en vrai, ça le barbe, à quoi bon? Et pourtant, quand on tombe sur celle qu'il a donnée à Laurent Jaoui pour son livre Radio Rock, on sent tout le plaisir qu'il a eu à lui parler, à revenir sur ses années de radio et sur ceux qu'il a conduit à être, durant des décennies, l'un des plus grands porte-voix de la scène rock en France.
Feedback.
Bonsoir, c'est Bernard Lenoir. Et comme promis ce soir, une émission spécialement consacrée à Stevelyn Morris, plus connu sous le nom de Little Stevie Wonder.
Rebecca Manzoni, vous êtes journaliste de radio, vous présentez les émissions Totémique et Le Masque et la Plume sur France Inter et vous avez bien voulu replonger avec nous dans ces années Le Noir. Quels sont vos souvenirs d'auditrice à vous ?
C'est très étrange là dans l'archive que vous diffusez parce que moi j'avais pas l'âge d'écouter Feedback. Parce que là on est en quelle année avec cette archive là ? Fin des
c'est
années
79.
70. Ouais, donc j'étais trop petite. Et je suis très surprise d'entendre ça doit être Van Halen, le générique là, un truc très rock comme ça, alors que moi mes souvenirs d'auditrice c'est vraiment Le Noir des années 90, quand j'arrive à Paris, de ma province, donc j'arrive, je suis hébergée dans un foyer d'étudiantes et je l'écoutais religieusement tous les soirs et pour moi c'était pas du tout Van Halen quoi, c'était du rock anglais indépendant, c'était de la pop indé. Donc ça me donne une idée du spectre musical qu'il a pu couvrir. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'arrivée à Paris dans les années 90. C'était mon rendez-vous du soir, parce que cette arrivée à Paris n'était pas spécialement évidente. Et c'était un rendez-vous dans tout ce que ça suppose d'amical, de chaleureux, d'avoir l'impression, je pense que la radio ça fait encore ça, ou les podcasts quand on a rendez-vous avec un podcast régulièrement, de faire partie d'une bande quoi. Et puis d'entendre sa voix là, qui se pose sur le générique, c'est très élégant, on l'entend pas respirer, il a la voix posée, il y a quelque chose d'assez chic quand même quoi.
Alors c'était une émission qui était très écoutée, mais qui parlait peut-être pas forcément à tout le monde. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté niche, voire même un côté un peu intello du rock ou puriste chez Bernard Lenoir ?
Oui, il y avait un petit peu club, musique d'initié, mais il y avait aussi de fait une fierté à en être. Même si par exemple, moi dans ce qu'il diffusait, il y a des choses que j'aimais pas, mais c'est comme si je me forçais à aimer... Parce que c'était un peu le bon goût, quoi. C'était le goût qu'il fallait avoir, ce qui suppose que par ailleurs, on pouvait avoir plein de plaisirs coupables. Notion de plaisir coupable qui n'existe plus du tout aujourd'hui parce qu'on n'a plus du tout la même façon d'écouter de la musique. Avec les plateformes d'écoute, c'est beaucoup plus décloisonné. Et même les artistes eux-mêmes se revendiquent beaucoup moins. Il y a moins de, je dirais, il y a moins de snobisme. Et la musique très populaire est devenue une forme de snobisme. C'est une nouvelle esthétique du cool, je dirais. Mais il y avait ce côté club d'initiés qui donnait une attitude. Et de toute façon, c'est aussi un moment de l'histoire de la musique et dans la façon qu'on avait de l'écouter où ça permettait de se repérer dans un groupe, quoi. Ah ouais, toi t'écoutes ça, ok, laisse tomber. Ah toi t'écoutes ça, ah ouais, on a peut-être des trucs à se raconter.
Est-ce qu'on peut faire un portrait robot de l'auditrice ou de l'auditeur typique de Bernard Lenoir ?
Je sais pas, j'avais quand même l'impression que c'était plutôt un truc de garçon. Ce qui avait tendance à me réjouir énormément.
Pourquoi ?
Donc, parce que j'adorais la compagnie des garçons et que ça me plaisait d'en être, quoi. Parce qu'on écoutait aussi de la musique pour draguer, parce que... En fait, je pourrais plus faire un portrait robot de l'auditeur de Lenoir plus que de l'auditrice. Il y avait un côté hype, quoi. Ouais. Que je trouvais extrêmement séduisant.
Donc vous vous sentiez pas exclue en tant que femme par un ton qui pouvait être un peu quand même masculin ?
Alors, c'était peut-être masculin avec... Je pense qu'il y a un regard rétrospectif aussi qu'on porte là-dessus. Mais moi, cet univers masculin me plaisait vachement. Moi, j'ai quand même grandi en écoutant Patti Smith, Blondie, donc P.J. Harvey ensuite. Et oui, j'avais plaisir à être dans cet univers-là.
Bernard Lenoir est né en 1945. Il a grandi d'abord à Alger, où son beau-père était distributeur et exploitant de films. Sa mère l'avait eu très jeune, à 17 ans, et cette proximité en âge n'était pas tout à fait sans conséquence, puisqu'à la maison, elle écoutait de la musique de jeune, ce qui fait que Bernard a entendu du rock avant même sa naissance, en particulier du rock américain. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, la famille Lenoir a été rapatriée dans le sud de la France et s'est installée à Bandol. Là, ses parents ont ouvert un petit hôtel en bord de mer et c'est dans cet hôtel que Bernard, à 18 ans, a installé une boîte de nuit, un mini-club où il passait des disques que les gens adoraient. En fait, il venait de commencer une carrière de DJ. On le retrouve un peu plus tard à Paris, toujours à suivre le fil de la musique, puisqu'il travaille dans une maison de disques. Un peu par hasard, il se retrouve programmateur musical remplaçant sur France Inter. C'était les vacances, un gros virus avait sévi dans les couloirs de la radio et on manquait d'oreilles pour programmer l'antenne. Visiblement, Lenoir a fait l'affaire, puisqu'on le retrouve chroniqueur pour l'émission de José Arthur, le Pop Club, archive du 4 avril 1977.
Bernard Lenoir, on a un tout nouveau disque que vous ne connaissiez pas, que je vous ai apporté comme ça tout à l'heure.
J'ai
trouvé dans une boutique spécialisée.
C'est quoi alors?
Dites-le-moi, je veux pas, parce que je n'ose pas le prononcer.
Oui. Non, c'est le dernier 30 cm des Beach Boys. Hey. Et on peut pas dire que ce soit ce qu'ils aient fait de mieux jusqu'à présent, hélas. Mais ça, c'est pas mal quand même. C'est Honking Down the Highway. On reparlera du 30 des Beach Boys. Là, on va écouter deux nouveautés de les jeunes loups du hard rock. C'est Foreigners, un tout nouveau groupe, et Stars. Feels Like the First Time et Sherry Baby.
Rebecca Manzoni, on vient d'entendre l'un des premiers passages de Bernard Lenoir au Pop Club de José Arthur. Il avait déjà ce ton de garçon pas très très facile à contenter quand même.
En fait, ce qui est assez étonnant quand je l'écoute comme ça, c'est que quand il parle, il ne sourit pas. Mmh. Et évidemment, quand on est à la radio et qu'on sourit, ça s'entend, le sourire passe dans la voix. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'a jamais dérogé à cette règle. Je suis tentée de dire qu'il ne s'abaissait pas à une espèce de séduction où finalement, aujourd'hui, à la radio, tout le monde a envie d'être sympathique et donc le sourire s'entend. Et ça, c'est une attitude assez rock. Si vous regardez dans les années 50, il y a pas mal de photos d'Elvis où il sourit pas. D'ailleurs, j'avais lu une bio où la règle précisément du rocker, c'était de ne pas sourire parce que ça permettait d'être sans doute un petit peu plus mystérieux. Voilà, le noir souriait pas et sa voix n'en était pas moins séduisante.
Peut-être que dans cette absence de sourire, il y avait aussi une grande timidité, parce que lui-même disait qu'il était absolument terrifié par le direct, ce qu'on n'entend pas du tout d'ailleurs.
Oui, c'est sûr. Le track fait que ça ferme un peu, on se ferme curieusement, alors qu'on est censé parler à plein de gens. Et cette timidité, en tout cas pour l'auditrice que j'étais, me le rendait extrêmement séduisant. Et quand vous avez donné sa date de naissance, 45, donc c'est la date de naissance de mon père en fait. Et je n'ai jamais visualisé, parce que quand on écoute la radio, on voit des images, je n'ai jamais visualisé Bernard Lenoir comme ayant l'âge de mon père, quoi. Pour moi, c'était quelqu'un, oui, qui était peut-être, qui avait, allez, 6-7 ans de plus, mais pas du tout une génération. Donc c'est pareil, vocalement ça raconte quelque chose d'avoir gardé aussi longtemps une voix aussi juvénile. Il y avait aussi quelque chose d'assez désinvolte qui était sans doute pas travaillé, c'était peut-être aussi lié à sa timidité, je ne sais pas, mais qui était aussi extrêmement séduisant.
Feedback.
En 1978, Bernard Lenoir s'occupe depuis 6 ans déjà de la programmation musicale du Pop Club. C'est le moment de prendre son indépendance avec une émission rien que pour lui, intitulée Feedback. Bien sûr, il ne se contente pas d'y passer les disques qu'on entend partout ailleurs, ce n'est pas le genre de la maison, et la programmation devient sensiblement plus pointue. Dans la salle des archives, il n'y a pas pléthore d'émissions de Lenoir qui n'étaient pas conservées en général, par manque de place et aussi parce que la bande magnétique, ça coûtait cher. Sauf que de temps en temps, il y avait comme ça une journée test où tous les programmes étaient enregistrés et archivés, pas seulement les journaux et les entretiens. Extrait de l'une de ces émissions sauvées au cours de ces journées de chalutage radiophonique, c'était le 15 janvier 1982.
Sur mon bout de papier, il y a écrit « The way John Kennedy died », la façon dont John Kennedy est mort, mais je pense que dans la chanson, c'est « The day John Kennedy died », le jour où John Kennedy est mort, mort assassiné à Dallas. Et c'est vrai qu'il n'a pas éprouvé un gros chagrin devant son téléviseur quand la dépêche est tombée. Un jour de novembre 1963, il y a déjà bientôt 20 ans. Bon, on va pas pleurer ce soir parce que les nouvelles sont plutôt bonnes. J'ai reçu plein de disques et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et parmi tous ces disques, il y a un disque français, et oui, tenez-vous bien, qui m'a absolument enthousiasmé. Et ça, je l'ai pas dit souvent. Par contre, j'ai souvent répété à ce micro que j'étais absolument atterré par ce qui se passait en France avec la musique française. C'était carrément le Moyen-Âge, un peu peut-être à cause des maisons de disques qui faisaient le barrage, qu'il y avait vraisemblablement des musiciens tout à fait valables en France, mais qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer parce que les maisons de disques, ma foi, recherchaient des facsimilés de téléphones, de trusts, enfin des choses qui sont susceptibles peut-être de leur rapporter beaucoup d'argent. Puis là, aujourd'hui, arrive un maxi-single qui est vraiment sublime. Le groupe s'appelle Panorama. Tout est bien. La musique, vous allez l'entendre. La pochette, j'ai souvent reproché aux pochettes d'être vraiment déliquescente en France. On ne s'y intéressait pas du tout. Là, au contraire, il y a une splendide pochette avec un thème, un concept, une belle photo. Panorama, écoutez.
Rebecca Manzoni, le noir passé, surtout du rock dans son émission, mais pas forcément du rock français. On entend dans cet archive qu'au fond, voilà, c'était pas là qu'il préférait aller chercher ses disques.
Mais plus personne fait ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle recherche de consensus permanent que d'entendre quelqu'un qui dit « Ouais, franchement, ça, c'est pas terrible, ça, c'est nul, les maisons de disques, ceci, cela », plus personne n'a ce discours. Ça me surprend même de l'entendre parler comme ça, c'est génial.
On a changé d'époque.
La liberté. Oui, on a changé d'époque. Mais il y a une telle volonté aujourd'hui médiatique rassembleuse. On n'est pas dans la même société non plus. Hein. Sans réseaux sociaux, il y a un mot très à la mode qui parle de clivage, mais qui reste une réalité. Mais le fait que le noir assume et dise ni plus ni moins que en gros le rock français c'est de la merde et les pochettes on n'en parle même pas. Je vois pas quel journaliste aujourd'hui tient ce discours-là, quoi.
Et ce jugement donc sur le rock français pas terrible par rapport aux Anglais, aux Américains, est-ce que vous pensez qu'il était très partagé à cette époque-là?
Le rock français n'a jamais été porté au nu par la critique musicale dans la lignée des Inrecuptibles, si on peut dire. La chanson française, qu'on a d'ailleurs appelée nouvelle chanson française, je pense à l'arrivée de Dominique A, de Philippe Catherine, que par ailleurs, moi, j'ai entendu vraiment chez Le Noir la première fois dans l'émission C'est Le Noir. Avant ça, le rock ou la pop française n'avait pas... n'était pas adoubé par cette critique-là. Peut-être à l'exception de Taxi Girl, Dao aussi, qui avait réussi à être à la fois et grand public et adoubé par des amoureux de la pop plus pointus. Mais avant ça, c'était pas apprécié, quoi.
Donc vous diriez que Le Noir, finalement, arrive à catalyser quelque chose et qu'il va peut-être pousser une scène rock française, celle qu'il juge la meilleure, et que ça fait partie, au fond, des critiques qui ont permis, au fond, de créer cette scène rock française.
Ce qui est totalement indéniable, c'est qu'il a très clairement participé à faire connaître Dominique A. C'est le premier à avoir diffusé une chanson de Dominique A sur Inter. Et moi, j'ai souvenir d'une interview croisée entre Philippe Catherine et Dominique A au début des années 90 avec Le Noir. Et j'en ai d'autant plus un souvenir que c'était catastrophique. C'est-à-dire que c'était deux jeunes artistes dont on sentait qu'ils étaient là à la fois. Vous imaginez trois timides autour d'un micro? Je suis tentée de dire, dont un timide tout professionnel, mais Le Noir était là comme pro de la radio quand même. Mais trois timides, cela dit, qui doivent engager une discussion avec deux jeunes gars qui se disent « Ouais, on est quand même dans un truc un peu commercial », qui ont une forme de condescendance. Il y avait des grands blancs et Le Noir qui ramait sans s'abaisser à être trop élogieux. Et même si la discussion n'était pas du tout nourrie, pour moi, c'est un vrai moment de radio. Et je m'étais dit « Mais c'est qui ces deux gars ?» Et c'était Philippe Catherine et Dominique A.
J'aurais pu être millionnaire avec piscine sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde.
En 1984, Le Noir est remercié de France Inter et doit quitter la Maison Ronde. Il se tourne alors vers la télévision et rejoint les Enfants du Rock sur Antenne 2, même si la station lui manque. Pour la télé, il présente la rubrique Rockline dans un style qui se veut très cool. On s'en rend compte par exemple dans un épisode de 1987 où il fait sa chronique pieds nus et en terrasse d'un PMU qui s'appelle le Petit Quinquin. Extrait.
Pour ce Rockline de mai, champêtre et printanier à souhait, nous avons un peu bousculé nos habitudes qui consistent généralement à partir à Londres, vous dénicher ces petits groupes anglais qui font notre bonheur. Merci monsieur le curé. Cette fois, on est venu s'installer à quelques kilomètres à peine de Paris, dans un petit village bien de chez nous, où nous avons surpris une de nos rockstars préférées. On peut même dire que depuis quelques années et au fil des sujets que lui ont consacrés les Enfants du Rock, c'est devenu un ami personnel. Et pour preuve de cette amitié, il vous a offert le nouveau générique des Enfants du Rock. Vous l'entendez régulièrement chaque samedi depuis le mois de septembre. Si chacun sait que depuis toujours, le générique de Rockline est signé New Order, c'est un secret pour personne que celui des Enfants du Rock est signé Robert Smith.
Et il suffisait d'y ajouter des paroles pour qu'on le retrouve dans le double album de Cure qui sort dans 10 jours.
L'album s'appelle
Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
Et Just Like Heaven, une exclusivité Rockline.
Rebecca Manzoni, est-ce que vous avez des souvenirs de Rockline, cette rubrique des Enfants du Rock qu'animait Bernard Lenoir ?
Je me souviens évidemment des Enfants du Rock et du générique. Il y avait Sex Machine aussi. Mais non, j'ai pas souvenir de ça. J'étais trop gamine en fait.
Dans cette deuxième moitié des années 80, Bernard Lenoir continue de travailler pour la radio, même si ce n'est pas pour le service public. On l'entend alors sur Kiss FM et sur Europe 1 notamment. Sauf que dans ces deux cas, il juge l'expérience décevante. Revenir sur France Inter en 1990 sera pour lui comme un retour aux sources, une réconciliation avec sa radio préférée et un nouveau bout de chemin qui va durer 21 ans avec l'aventure des émissions L'Inrecuptible et C'est le Noir. Pour faire plaisir aux collègues d'Inter, il donne parfois des interviews, comme celle-ci en 2003 avec Brigitte Patient. Elle est assez représentative de ce qu'il dira dans ce genre d'occasion au fur et à mesure des années.
C'est le Noir, c'est quoi ?
C'est la musique qu'on n'entend pas ailleurs. Je dis toujours, c'est la musique pas comme les autres. Bon, ça a été repris et décliné dans tous les sens, cette formule, mais c'est vrai. C'était ça au départ. Ça date pas d'hier. Je crois que moi, je suis un enfant du pop club. Donc, déjà à l'époque, il y avait cette musique qu'on n'entendait pas ailleurs chez José, quoi. Bon, j'ai un peu perpétué cette histoire. Effectivement, les gens qui viennent m'écouter le soir, ils viennent chercher cette musique qu'on n'entend surtout pas sur la bande FM et dans les radios dites musicales, voilà.
Tout à l'heure, j'ai dit rock, c'est aussi simple
plus,
que
ça. Ça veut plus dire grand-chose. Hein. Et oui, bon, le rock, au départ, c'était effectivement une certaine énergie, mais je pense pas que ça puisse qualifier à 100% ce que je passe le soir. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça.
Il y a combien de titres en moyenne diffusés pendant une heure ?
Comme j'hésite pas à passer des morceaux qui dépassent les 10 minutes parfois, ça va de 8 à 15. Quoi.
De 8 à 15
oui.
Et une majorité de quel pays ?
Oulala,
la
en ce moment je sais pas s'il faut l'avouer,
oui.
Majorité anglo-saxonne, mais personne n'a entendu. Hein. Mais avec toujours quand même, distillé au compte-gouttes, les Français... Les artistes français qui méritent vraiment qu'on s'intéresse à eux.
Qui mérite ?
En ce moment ?
Bernard Lenoir.
Vous voulez savoir les gens qui m'ont toujours intéressé en France ? Bon, effectivement, si on veut résumer, c'est assez vite fait. C'est Gainsbourg, c'est Mansé, c'est Murat, bien sûr, Bachung. Et aujourd'hui, c'est une petite nana comme Émilie Simon, par exemple.
Rebecca Manzoni, c'est à ce moment-là, dans les années 2000, que vous avez travaillé ensemble à France Inter. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez rencontrée, que vous vous êtes parlé ?
Je me souviens surtout de la première fois que je l'ai vue en photo dans les couloirs de France Inter, parce que je venais d'arriver, j'étais stagiaire, et il y avait les photos de tous les producteurs, de tous ceux qu'on entend au micro, alignés comme ça, dans le couloir. Et la photo que j'ai cherchée, c'est celle de Lenoir, évidemment. C'était la photo la plus travaillée, d'ailleurs. Dans le sens où il y avait un peu un effet, un peu flou, il était très beau. Et après, je l'ai croisé, j'ai fait que le croiser dans les couloirs, je ne suis jamais allée lui parler, j'aurais jamais osé. Et encore une fois, là, dans l'archive, ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression d'un mec qui n'est pas sympa, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'effort. Je trouve ça. Moi je trouve ça extrêmement séduisant. De la musique pas comme les autres, ça renvoie aussi à un slogan qui définissait France Inter dans les années 80 et qui n'aurait absolument plus cours aujourd'hui, c'était « pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles ». C'était déjà choquant à l'époque, et pour reprendre un langage contemporain, c'était très clivant, quoi. Il y avait ce côté de « nous, les sachants ». Ce qui est assez insupportable. Et chez Le Noir, il y avait, oui, il y a ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, passez votre chemin.
Dans sa pratique d'animateur de radio spécialisé dans le rock, Bernard Le Noir revendiquait une référence en particulier, celle du DJ anglais John Peel, qui a officié sur la BBC pendant de très nombreuses années.
Je fais toujours John Peel en Angleterre.
Dès 1977, Peel avait lancé le John Peel Show et plus tard les célèbres Peel Sessions, autrement dit des concerts commentés en direct dont Le Noir allait s'inspirer pour lancer ses Black Sessions.
I'm interrupting both my physical and spiritual training for Sunday's big match in Birmingham to bring you the last of this week's programs, which marks the.
Quand John Peel meurt en octobre 2004, les journalistes de France Inter se tournent évidemment vers Le Noir pour le faire réagir au sujet de celui qui a été un grand défricheur du rock de l'autre côté de la Manche.
C'est une vraie légende de la radio qui vient de s'éteindre outre-Manche.
John Peel est mort d'une crise cardiaque la nuit dernière à l'âge de 65 ans. Depuis 1967, il animait une émission musicale sur Radio One, un vrai découvreur de pop et de rock, avec une vraie influence dans l'univers musical. On peut dire que John Peel est pour l'Angleterre notre Bernard Lenoir national. Bernard Lenoir, pour qui John Peel était un vrai modèle, écoutez-le.
Ah, c'était un défricheur, c'était un fouineur. En Angleterre, on vous dirait tout de suite que c'était le plus grand DJ de tous les temps. Mais ici, ça n'a pas la même connotation. En Angleterre, c'est un producteur-animateur, un peu ce que je fais ici aussi, qui découvrait énormément de choses. Il faisait que ça, hein. Il écoutait toute la journée, il écoutait de la musique, et ce qui l'intéressait le plus, c'était de tomber sur vraiment de futurs talents, quoi, des gens qui arrivaient, qui débarquaient. On a tous eu envie de lui ressembler un jour ou l'autre, parce que c'était le précurseur, c'est le premier, c'est le plus grand, donc forcément, il faisait des sessions lui aussi, les fameuses Peel Sessions, qui était diffusé sur la BBC, et j'ai eu l'occasion il y a une quinzaine d'années de faire une compilation de tous les groupes qui étaient passés chez lui, c'est-à-dire 95% des groupes anglo-saxons. Tout le monde passait chez lui.
Ouais, il y a une vraie filiation évidemment entre John Peel et Bernard Lenoir, c'est évident. Il parlait des Peel Sessions, mais il y a eu les Black Sessions de Lenoir à Inter où il avait une façon hyper élégante de présenter les concerts, de se poser sur les intros de disques, où il a reçu des gens comme Radiohead, les Strokes au début des années 2000, dans mon souvenir.
Et vous avez présenté aussi, et vous continuez de le faire, des concerts sur France Inter. Est-ce que vous avez parfois Le Noir en tête quand vous prenez le micro?
Ah oui, c'est clair, bien sûr. Il y a des commentateurs qui commentent pour exister. C'était pas du tout le cas de Le Noir. C'était vraiment la musique avant tout, et de fait, chacune de ces interventions était précieuse et c'était ce qu'il fallait au bon moment. Ce qui, dans le cas d'un direct, au moment d'un concert, est pas si évident. Et il avait une très bonne connaissance des morceaux qui lui permettait de pas empiéter, de pas mordre, comme on dit, sur le début du chant de l'artiste. Donc tout ça, c'était de l'orfèvrerie et j'y ai évidemment pensé, oui, quand j'ai commencé à faire ça, évidemment.
Mais le lien d'effet de Jean-Louis Morat que vous entendez, ce n'est pas pour pleurer encore que, mais c'est surtout l'un des disques que Bernard, tu vas emporter sans doute dans les grands voyages que tu rêves de faire maintenant en toute liberté, en nous abandonnant sur le quai de France Inter et du rock. Alors c'est un choix mûrement réfléchi que tu as fait, et tu m'as fait d'ailleurs des confidences très claires dans ton bureau tout à l'heure, au milieu de tes piles de disques.
La vie est courte et que j'arrive à un âge canonique où il faut profiter des derniers bons moments, et voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire, quoi. Faire des voyages au long cours, partir plus que deux ou trois jours quelque part, quoi. Et moi, j'adore l'Italie, rester trois semaines en Italie, ça me fait rêver depuis toujours.
De qui tu es le plus fier par rapport à ces découvertes que tu nous as offertes?
J'ai rien découvert du tout, j'étais un passeur, j'avais la possibilité d'écouter des choses. Nirvana, j'ai probablement été le premier à diffuser ça en France, Jeff Buckley, voilà, et la liste est longue.
Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais.
Rétrospectivement, on se rend compte que Bernard Lenoir a beaucoup fait pour le rock en France. Certes, il a davantage aimé et diffusé le rock anglo-saxon, mais il a toujours soutenu des artistes comme Dominique A, Françoise Breut ou encore Yann Tiersen, tous des habitués des Black Sessions.
Voir un jour les raisons d'aimer.
On ne peut pas non plus ne pas citer cet éléphant dans la pièce de l'histoire du rock français, Les Radioactifs, Noir Désir. Incontournables de la scène française des années 90, ils sont pour toujours associés aux violences faites aux femmes depuis le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat et le suicide de Christina Radi, la mère des enfants du chanteur. La mise au jour progressive de la personnalité de Cantat et de l'omerta qui a entouré son comportement a sonné la fin des illusions autour du groupe. Le mythe de l'amour passionnel qui justifiait tout ne tient plus. Mais pour les fans, la désillusion a été à la hauteur du culte qu'il lui avait porté. Cette gueule de bois du rock français, nous allons tenter de vous la raconter à l'aide des archives dans le prochain épisode. C'était Les Bandes du Rock, une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner. Prise de son Antoine Viossa et François Saint-Jour. Mixage Marie-Claire Omabadi. Documentation musicale Antoine Vuillos. Documentation INA Delphine André. Thank you.